Je continue mon étude de l'épître de Paul aux Éphésiens et nous sommes arrivés au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, et je vais lire les premiers versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce passage nous parle de l'immense grâce de Dieu. À quoi nous avons échappé? Sergio Prego est un artiste espagnol. Et c'est après les événements qu'il s'est rendu compte à quoi il a échappé. Pour des affaires commerciales, il a pris un train pour Compostelle au mois de juillet. Au début, il voulait prendre la voiture et puis il s'est dit « Non, il y a tellement d'accidents en voiture, je vais prendre le train, c'est plus sûr. » Il y avait une promotion pour les premières classes. Et les wagons de première classe sont les wagons qui sont en queue. Mais il a dit « Non, c'est pas grave, je vais voyager en deuxième classe. » On lui a donné son billet et il s'est retrouvé dans le wagon juste derrière la locomotive. Ils sont arrivés près de Compostelle et là où le train devait rouler à 80 km/h, ils étaient à 180 km/h. Et il raconte, il dit « On allait tout droit, on était juste derrière le loco, j'étais contre la vitre. Et d'un seul coup, j'ai vu qu'on allait trop tout droit, il fallait tourner là. » Et il dit « En quelques dixièmes de seconde, la force centrifuge m'a pressé contre la vitre. J'ai entendu un bruit effroyable de crissement et d'explosion. Et je me suis réveillé. » Plus tard, tout était en feu, tout était cassé, j'avais la vitre cassée à côté de moi, mais j'étais en vie. Et il s'en est tiré avec la clavicule cassée et des contusions. Des voisins du coin l'ont sorti de là. S'il avait été dans les premières classes sont les wagons qui ont volé en l'air, comme ça. C'est là où il y a eu le plus de morts. Il a choisi le bon ticket, hein, le ticket qui vous met derrière la loco, là où il y a eu le moins de mort. Cet homme, il réalise maintenant à quoi il a échappé. Vraiment. Quand il voyait le train et les dégâts, vous dites, mais comment il peut y avoir même un survivant? Eh bien, quelque part, quand on est chrétien, on est comme Sergio Prego. Nous aussi, on a échappé à quelque chose de terrible. On a échappé à l'enfer. On a échappé à la colère de Dieu. On a échappé à la mort éternelle. Ici, on réalise que nous sommes des miraculés, des graciés. Ce n'est pas la chance, nous, qui nous a sauvés, mais la grâce de Dieu. Et je crois que c'est la grâce de Dieu qui a sauvé Sergio aussi. Hein. Dieu lui a laissé encore du temps pour réfléchir et se mettre en règle avec lui. Mais nous, même si on n'a pas échappé à une mort aussi catastrophique, hein, aussi terrible, nous avons échappé à l'enfer et j'aimerais qu'on regarde à quoi nous avons échappé. Ce que nous étions, il le dit ici dans les premiers versets du chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, on a du mal à comprendre. Il parle à des gens qui sont vivants, là. Ils sont en pleine vie, il ne parle pas à des cadavres. Il dit, vous étiez mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Évidemment, c'est un sens spirituel. Vous étiez mort du point de vue spirituel. Pour bien comprendre ce mot, il faut se référer à la parabole du fils prodigue. Tout le monde connaît plus ou moins cette parabole, hein, le fils qui dit à son père, donne-moi mon héritage, et il s'en va. Et puis un jour, au fond de la misère, il se repent et il décide de retourner vers son père et de lui demander pardon. Et quand il revient repentant vers son père dit cette phrase dans Luc 15, 24, « Car voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Eh bien, c'est ça le sens de la mort. Son fils, pour lui, était mort. Ils n'avaient plus de communication, c'était terminé, ils étaient totalement séparés entre eux. Dans la parabole du fils prodigue, évidemment, le fils, c'est nous, et le père, c'est Dieu. Quand il dit « vous étiez mort », ça veut dire « vous étiez complètement séparés de Dieu, vous n'aviez plus de relation, vous étiez coupés ». Pourquoi vous étiez coupés de Dieu? Pourquoi nous étions coupés de Dieu? Par vos offenses et par vos péchés. Chaque fois que nous commettons une infidélité à la parole de Dieu, à Dieu, hein, nous commettons une offense. Est-ce que vous aimez quand on vous offense? Ça vous fait plaisir quand on vous offense? Vous trouvez ça agréable? Hein, c'est un mot fort, hein, offenser. C'est quelque chose qui vous choque, que vous n'aimez pas. Eh bien, chaque péché que nous commettons est une offense à la sainteté de Dieu. Dieu a établi sa loi pour les hommes et chaque fois que nous transgressons la loi, nous péchons et nous offensons le Créateur, le Dieu vivant. On ne réalise pas à quel point le péché est grave. Et il va nous le dire plus tard. Et puis il dit, vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Alors bien sûr, au temps de Paul, il n'y avait pas de train. C'est une façon de s'exprimer en français, mais quand on est prédicateur, on aime bien cette phrase parce qu'on dit, voilà, dans quel train êtes-vous? Quel train avez-vous pris? Est-ce que vous avez pris le train de ce monde qui va en enfer ou est-ce que vous avez pris le train du Seigneur qui va dans la gloire céleste? Dans quel train êtes-vous? Et ne pensez pas que vous êtes né dans ce train et que vous ne pouvez plus sortir. Non, vous pouvez sortir du train où vous êtes, du train de la perdition, du train de ce monde. Beaucoup de gens, et particulièrement en France, se croient libres. Ils disent « moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis libre ». Et d'ailleurs, sans Dieu, je suis beaucoup plus libre. Les croyants, on regarde, ils ont des lois, ils ont des principes, des préceptes, ils ne peuvent rien faire. Moi, je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît, je suis libre. Eh bien, c'est vraiment totalement faux. Il dit, dans le train de ce monde, qui est le conducteur du train de ce monde-là? Éphésiens 2:2. Satan, le prince de la puissance de l'air. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein? Pourquoi il l'appelle comme ça? La puissance de l'air, hein, c'est l'atmosphère terrestre, c'est la terre en fait. Le prince de ce monde, le diable, c'est lui qui tire les ficelles quand on n'est pas avec Dieu. Vous pouvez dire, je n'aime pas le conducteur du train, mais n'empêche que c'est lui qui conduit le train. Vous pouvez dire, mais moi je ne suis pas satanique, hein, je ne crois pas au diable ni rien. Oui, mais c'est lui qui conduit le train dans lequel vous êtes. Et il va vous amener là où il va. La Bible dit qu'il va dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut vite changer de train. Et c'est là où étaient les Éphésiens avant de croire au Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être neutres spirituellement. Dis-moi, ne me parlez pas de Dieu, mais le diable non plus. Moi, je suis un être humain, je fais ce que je peux, j'aide les gens, voilà, je ne suis pas parfait, mais je suis libre. Eh bien, c'est faux, il n'y a pas de neutralité. Imaginez un peu pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, vous avez certainement lu des livres ou vu des films sur la Seconde Guerre mondiale, l'occupation nazie en France. Il y avait en France une zone libre, hein, dans le sud de la France, le gouvernement de Vichy avait une certaine liberté. En réalité, ils n'en avaient pas beaucoup. Hein. Mais ça s'appelait la zone libre. Et là, vous pouviez vivre là et dire, mais moi, je n'ai pas d'occupant nazi là. C'est le gouvernement, c'est Pétain, c'est que des Français, là. Il n'y a pas de nazis. Et puis, de toute façon, les nazis, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais là, je suis neutre, je suis dans la zone libre, tout va bien. Et puis, un jour, quelqu'un vient vous voir et dit, écoute, il faut que tu caches des résistants, ils sont poursuivis. Ils essaient de chasser les nazis de la France, mais ils ont besoin là, et tu les caches, tu peux pas les cacher. Ah, moi je suis neutre. Moi je suis neutre, je suis ni pour les nazis, ni pour De Gaulle et les résistants, moi je suis neutre. Qu'est-ce que vous penseriez d'une personne comme ça? Ensuite, on vient vous voir et on vous dit, écoute, ça y est, il faut dénoncer les juifs là, t'as des voisins juifs, il faut aller les dénoncer hein, aux autorités françaises, hein, les autorités françaises. Et là, hein, vous dites, ben oui, de toute façon, si moi j'obéis à mon gouvernement, hein, j'obéis aux autorités, je vais dénoncer mes voisins. De toute façon, si on veut les arrêter, c'est qu'ils ne sont pas si innocents, hein, ces juifs. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui dit ça? Hein? Au meilleur, on dirait que c'est un lâche, et au pire, c'est un collabo. Et pourtant, lui, dans sa tête, il est neutre. Moi, je ne suis pas pour les nazis. Suis pas pour les résistants. Mais en fait, il est pour les nazis sans le vouloir. Hein. Il fait le travail des nazis par sa lâcheté. Eh bien, d'une certaine façon, spirituellement, si vous dites, moi, je ne crois pas au diable, je ne suis pas le diable, mais le fait de ne pas suivre Dieu et sa parole, vous êtes sous l'influence du train de ce monde, de Satan, le prince de la puissance de l'air. Il vous influence par des choses que vous n'imaginez même pas, des philosophies, des fausses religions, des idées. Puis après, il utilise aussi pour certains les drogues, toutes sortes de choses, d'addictions, pour amener les gens à perdre leur vie et à le suivre dans la perdition. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit perdu avec lui. Parce que plus il y a d'hommes perdus, plus Dieu est humilié à ses yeux. Il n'y a pas de neutralité. Maintenant, il faut prendre position, changer de train. Et puis, il dit. Nous étions sous le prince de la puissance de l'air et sous marchant selon les convoitises de notre chair. Là encore, il y a des gens qui disent, mais moi, sans Dieu, je suis libre. Je fais ce qui me plaît. Je veux fumer, je fume. Je veux m'enivrer, je m'enivre. Je veux fumer un joint, je fume un joint. Je veux coucher avec n'importe qui, je couche avec n'importe qui. Je suis libre. Et je n'ai pas besoin de cette loi de Dieu qui va nous ostraciser, qui va nous empêcher de vivre. Je suis libre. Quel mensonge, quelle illusion. Parce que quand on vit sans Dieu, on est esclave de ses convoitises. Ici, il dit, vous étiez par nature des enfants de colère accomplissant les volontés de la chair. L'être humain, et je n'ai pas besoin de trop m'étaler là-dessus, nous sommes tous des êtres humains, on le sait très bien, a une nature portée vers le mal. Vers le mal. Il faut être aveugle pour penser l'inverse, pour penser que l'homme va naturellement vers le bien. Pourquoi faut-il que les parents éduquent leurs enfants, d'après vous? Est-ce que vos enfants vont naturellement vers le bien? Non, c'est dans la nature de l'être humain. Et plus vous laissez la nature faire, plus vous allez vers le mal. Ce qui nous garde un petit peu, un tout petit peu, c'est l'éducation, justement. Hein. On essaye de réfréner nos instincts, nos pulsions. Et il y a un certain nombre d'individus dans le monde hein, et en France qui se baladent avec leurs pulsions incontrôlable. Là, ils sont en train de courir après un violeur. Et le psychiatre qui l'avait examiné a dit, cet homme a un visage d'ange, mais en fait, c'est une véritable bête. Il aime torturer et violenter les femmes. C'est sa drogue. Comment quelqu'un devient comme ça? Vous croyez que lui, il est né comme ça et que vous êtes merveilleux ou que moi, je suis merveilleux? On a tous cette nature, la même nature que ce violeur-là. On a cette nature pécheresse, cette chair qui veut convoiter. Sauf que celui-là, lui, l'a amené au bout de la perversion. Et quand il dit c'est une véritable bête, en fait, je dis non. Les bêtes ne torturent pas. Les bêtes ne sont pas perverses. Il n'y a que l'être humain qui est comme ça. Et franchement, je préfère presque vivre avec des bêtes qu'avec des êtres humains. Pervers. D'ailleurs, il y en a qui le font. Mais. La nature humaine est mauvaise. Et si vous dites, moi je suis libre, je laisse ma nature faire, je suis libre, vous allez aller vers le mur, vers l'enfer aussi, hein, vers la perdition de votre âme. C'est pour ça qu'il faut changer de train. Et puis il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Sans Dieu, on est sous la colère de Dieu. On se croit à l'abri parce qu'on se dit, mais moi je ne suis pas trop pécheur. La colère de Dieu, c'est pour Satan, pour Hitler, etc. Mais la colère de Dieu, c'est pour tous les pécheurs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui, justement, n'obéissent pas à Dieu, ceux qui disent « Dieu n'existe pas », ceux qui se voilent la face. La colère de Dieu se révèle du ciel contre ces personnes-là. C'est l'Épître aux Romains, chapitre 2, qui le dit. Chapitre 1, pardon. Et cette colère, ce n'est pas une colère humaine, ce n'est pas que Dieu, d'un seul coup, devient rouge et... Pff. Non. La colère de Dieu, c'est une colère de justice, une colère sainte. C'est l'accumulation de nos péchés et de notre impénitence, je ne sais pas comment dire. L'impénitence, c'est le fait de ne pas vouloir se repentir. C'est quelqu'un qui dit « Non, je ne me repentirai, je ne reconnais pas mes péchés. » Ça s'appelle être impénitent. C'est peut-être ça le pire des péchés, finalement. Quand on a commis des péchés, nous sommes tous dans la même situation, mes amis, nous avons tous péché, nous avons tous offensé notre Créateur. Mais il y a ceux qui se sont repentis et ceux qui ne se sont pas repentis. Ceux qui se sont repentis, ils ont changé de train, ils sont venus à Christ. Ceux qui ne se sont pas repentis sont toujours dans le même train et ils sont sous la colère de Dieu. Quand le terminus arrive, c'est la colère de Dieu, c'est la perdition éternelle. On ne peut pas être sauvé sans changer de train. C'est ce qu'il nous explique ici. Si vous restez dans le même train, même si vous êtes quelqu'un d'assez gentil, même si vous dites « moi j'essaye de faire du bien, je fais de mon mieux, je vole pas, je tue pas », votre train va à la perdition éternelle. Le train de ce monde, le train de l'esprit des fils de la rébellion. Et il dit « nous étions, nous, tous aussi nous étions de ce nombre ». Il veut rappeler que les chrétiens ne sont pas des gens qui sont nés comme ça. Que les chrétiens un chrétien n'est pas supérieur aux autres. C'est pas quelqu'un qui dit moi je suis chrétien alors attention. Je suis supérieur. Moi je ne pêche pas. Non, c'est faux ça aussi. Un chrétien c'est quelqu'un qui est un rescapé. Que le Seigneur a sorti de son péché, de sa rébellion et l'a sauvé le jour où il lui a tendu la main. Je donne toujours cet exemple, mais c'est vraiment un exemple flagrant et simple. C'est que vous êtes en train de vous noyer et un sauveteur arrive et il vous donne sa main. Si vous la prenez, il vous sort de l'eau. C'est aussi simple que ça. Si vous dites « Non, je n'en ai pas besoin, je ne me noie pas. C'est une illusion, c'est vous, tu n'existes pas. Je vais m'en sortir tout seul, je vais encore réussir à nager. » Et que vous coulez, c'est parce que vous l'avez cherché, franchement. Vous n'avez pas voulu saisir cette main. Alors, il y a plein de raisons pourquoi les gens ne saisissent pas la main du Sauveur. C'est parce qu'il y a l'orgueil. On ne veut pas reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. Mais franchement, l'orgueil, quand vous êtes en train de périr, c'est une folie absolue. Quand vous êtes en route vers l'enfer, si vous mourrez, là, pouf, vous allez en enfer. Mais de ne pas saisir cette main, c'est une folie. Nous étions de leur nombre, nous sommes des miraculés, des rescapés de la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est accessible à tous. Encore une fois, il n'y a pas une classe d'élus qui reçoit la grâce et les autres, on les laisse à leur sort. L'amour de Dieu, il en parle. Là, il va nous parler de tout ce que Dieu a fait pour nous. À partir du verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » La miséricorde, c'est de ne pas nous donner ce qu'on mérite. On mériterait la condamnation à cause de nos offenses. Mais Dieu ne veut pas nous condamner. Pourquoi ? À cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 4. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Tellement de gens doutent de l'amour de Dieu parce que Satan leur susurre que Dieu ne les aime pas. Et ils croient au mensonge du diable. Et ils choisissent de croire ce mensonge. Mais comment puis-je vous le dire ? Pas mieux que la parole de Dieu. Dieu vous aime tous. Dieu nous aime tous. Et pas simplement par des mots. Il nous a aimés en donnant sa vie sur la croix, en mourant à notre place. On était perdus dans nos convoitises, dans nos péchés, dans notre rébellion, et lui, il est venu porter notre condamnation. Il aurait pu nous condamner justement, nous éloigner de lui pour toujours. Il en avait le droit puisque nous étions pécheurs, il est juste. Mais il a préféré nous pardonner en Christ. Et Vous avez remarqué dans cette épître peut-être que partout, partout, c'est marqué en Christ, en lui, en Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans une église. Le salut n'est pas dans un pasteur, un missionnaire, un prêtre, un pape ou un saint. Le salut est uniquement en Jésus-Christ. C'est uniquement grâce à Christ que nous sommes sauvés. Et il dit, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Pour ressusciter un mort, est-ce que nous arrivons, nous, à ressusciter des morts? On arrive avec un défibrillateur à ramener à la vie quelqu'un qui est mourant ou dont le cœur s'est arrêté. Mais quelqu'un qui est mort, qui est bien mort, la vie n'est plus là. Est-ce que nous arrivons à le ressusciter? Qu'est-ce qu'il faut comme puissance pour ressusciter un mort? Une puissance surhumaine, phénoménale, inconnue. Si on la connaissait, on serait déjà allé dans les cimetières. Il n'y a que Dieu qui a cette puissance. Et pourquoi il dit qu'il nous a ressuscités? Parce qu'on était morts, spirituellement, rappelez-vous. Et cette résurrection, ça montre que le salut, ce n'est pas juste une amélioration de la vie. Ce n'est pas que j'étais quelqu'un qui avait des petits défauts et que Dieu va m'améliorer. Ce qu'il est en train de dire, c'est que non, tu n'avais pas des défauts, tu étais mort. Tu étais coupé de Dieu, tu étais perdu. Et Dieu te ressuscite, te donne la vie. Tu es passé de la mort à la vie, comme dit la Bible. Ce n'est pas qu'on s'est amélioré, on a fait des progrès. Alors oui, avant je mentais beaucoup, maintenant je mens moins. Avant j'étais très orgueilleux, maintenant je suis un peu orgueilleux. Ce n'est pas ça le salut en Jésus-Christ, je peux vous le dire tout de suite. D'ailleurs, il le dit, ce n'est pas par les œuvres que vous avez été sauvés. On ne peut pas se sauver par nos œuvres. Est-ce que vous pouvez faire assez de bien, premièrement, pour plaire à Dieu, qui est saint, qui est juste, qui est trois fois saint? Est-ce que vous allez faire assez de bien? Est-ce que vous pouvez être saint déjà vous-même une seconde? Comment je peux plaire à Dieu? Et puis, tout le mal que j'ai fait, toutes les offenses, comment je vais les racheter? Comment je vais les payer? Parce que ça, ça se paye, ça. J'ai fait des péchés dans le passé. Qui va payer pour ça? Moi? Mais si je paye, je meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Comment je peux faire pour plaire à Dieu, moi qui suis pécheur? Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas en priant fort. Ce n'est pas en faisant un pèlerinage. Ce n'est pas en essayant de donner un chèque à une association humanitaire. Ce n'est pas ça qui va me sauver. Parce que je suis complètement mort dans mes péchés. Il n'y a qu'une seule chose qui peut me sauver, c'est la puissance de Dieu qui me ressuscite. Et cette puissance, on l'a par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et cette puissance de résurrection, il veut la transmettre dans notre esprit. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors ça, c'est quelque chose. Il dit non seulement il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Qui est assis déjà dans les lieux célestes? Christ. Il est dit qu'après sa mort, il est ressuscité, après la résurrection, il est monté au ciel. Voilà, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, dit la Bible. Et eh bien, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, non seulement nous sommes nés de nouveau, nous ressuscitons spirituellement, nous avons la vie de Dieu en nous, cette vie éternelle, mais en plus nous sommes assis avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je suis assis avec Dieu. Pourtant, moi j'ai bien l'impression d'avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais encore une fois, on l'avait vu au chapitre 1, verset 3, il a dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Où ça? Dans les célestes, justement. Hein? Littéralement dans les célestes. Eh bien, ce trésor de bénédiction dont j'avais parlé au premier message, nous y sommes. On est déjà là, spirituellement, en position, nous sommes au ciel. Nous avons toute l'autorité de Dieu, la grâce de Christ avec nous. Bien que nous ayons les pieds et la vie sur terre, je pense qu'il y a peu de chrétiens qui réalisent qu'ils sont assis dans les lieux célestes. Bien peu d'entre nous. Et même ça demanderait encore beaucoup de réflexion, de méditation et de compréhension. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je suis assis dans les lieux célestes. Quand vous priez, vous ne priez pas en dessous des nuages en disant « j'espère qu'il va m'entendre ». Quand vous priez, vous êtes au-dessus. Pas de Dieu, hein, au-dessus de la situation. Vous êtes avec Christ, il est à vos côtés quand vous priez. J'ai toujours été frappé par l'histoire de John Hyde. John Hyde, qui était ce missionnaire anglais en Inde, qui était un homme qui avait une telle puissance de prière qu'on l'appelait Praying Hyde, Hyde le prieur. Et un jour, un pasteur l'a invité à venir prier avec lui parce qu'il dit « Nous allons annoncer l'évangile dans la ville et je ressens le besoin de quelqu'un qui vient prier avec nous parce que nous sommes faibles, nous sommes peu nombreux et ce monde est très difficile. » Alors John Hyde a accepté et il a dit « Ben, on va aller dans votre bureau, on va prier tous les deux tout de suite. » Alors le pasteur a dit « Très bien. » Ils se sont mis à genoux et le pasteur a attendu parce qu'il dit « C'est quand même Praying Hyde. » Je vais le laisser prier en premier. » Et pendant 5 minutes, il ne s'est rien passé, et il entendait respirer, et puis parfois soupirer. Dire « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» 10 minutes, toujours pas un mot qui sort. Et au moment où il allait lui-même prier, Hyde a commencé à ouvrir la bouche et à s'adresser à son père. Mais il dit, il raconte ce pasteur, il dit « Il était tellement près de Dieu que je pense qu'il n'était plus là avec moi. Il était dans la présence sainte de Dieu et il parlait à Dieu comme on parle à son ami. » Il a prié comme ça pendant quelques minutes et puis ensuite, moi je n'avais plus rien à dire parce que il m'avait transporté avec lui au ciel et il dit toute la semaine a vu des fruits extraordinaires des gens qui se sont convertis alors que d'habitude ils étaient durs comme du fer. Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a cet homme? Moi aussi, je veux être assis dans les lieux célestes. » Mais ça nous est donné déjà, à tous. On passe tellement à côté de choses que Dieu nous a déjà données en Jésus-Christ. Et puis, il continue « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Il insiste. On ne peut pas mériter le salut. On ne peut pas construire son salut. On ne peut pas bâtir. On ne peut pas essayer de gagner son ciel. Vous n'y arriverez jamais parce qu'il faut être parfait, absolument parfait. Il n'y en a qu'un qui pourrait mériter son ciel, c'est Jésus-Christ. Mais il est le Sauveur, il est Dieu. Mais nous, des pécheurs, on ne peut pas, on ne peut le recevoir que par grâce. C'est-à-dire la grâce, c'est qu'on vient mendier quelque part, on vient dire au Seigneur, je suis pécheur, tu devrais me condamner, mais je te demande de me gracier, Seigneur, d'avoir pitié de moi. C'est comme ça qu'on vient à Dieu. On ne vient pas à Dieu en disant, « Bon, j'espère que tu vas m'accorder le ciel, hein ?» Parce que regarde ce que j'ai fait, hein, j'ai fait ma liste, j'ai imprimé ma liste, là. Alors là, j'ai fait traverser un aveugle. Là, j'ai aidé ma voisine, elle avait besoin d'un peu de lait. Là, j'ai envoyé un chèque, bon, il était sans provision, mais c'est pas grave, j'ai envoyé quand même à une association humanitaire. C'est ça votre liste, c'est ça pour aller au ciel ? Et imaginez maintenant qu'on soit au ciel avec nos mérites et qu'on se parle ensemble, hein, il y a la gloire immanente, extraordinaire de Dieu qui est là, de Christ. Et là, on discute, on dit, alors toi, t'es venu comment ici? Ben moi, j'ai travaillé dur, hein, tu sais, j'ai prié 1 heure par jour. Et non seulement ça, mais alors, j'ai prié certaines prières, tu vois, avec un objet, j'avais une petite croix spéciale, là, avec l'image de la Vierge, et j'ai prié 1 heure par jour. Et tu vois, j'ai réussi, passé l'examen, je suis sauvé. Et toi? Ah ben moi, attends, c'est rien ce que t'as fait. Moi, j'ai fait beaucoup de bien. Hein. J'ai été carrément en Afrique, j'ai aidé des gens à construire une mission, un dispensaire et tout. Alors, mais t'as fait que ça? Ah ouais, mais je pense que ça suffit quand même. Regarde, je suis là. Est-ce que vous imaginez le ciel comme ça? Avec les gens qui se vantent. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Déjà, sur la terre, c'est insupportable. Alors, au ciel, pour l'éternité. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Là, il est. Franchement, il veut être clair, Paul, on sent qu'il insiste. C'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire, je reçois la grâce par la foi. Je l'accepte comme une main qui prend un cadeau. Seigneur, j'accepte ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je l'accepte. Voilà le vrai salut. Voilà comment on obtient le salut. Par la grâce. Et puis, il dit car nous sommes son ouvrage, c'est le verset 10. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Et je ne vais pas trop m'étaler sur ce verset, parce qu'il est très important, on en parlera plus tard, mais si Dieu nous sauve et nous gracie, ce n'est pas pour qu'on reste là en disant « Moi, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, faire n'importe quoi, maintenant je suis sauvé. Donc je peux aller pécher comme je veux. » Non, ce n'est pas ça le salut. Quand Dieu vient dans notre vie, Il change tout. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. En fait, vous voulez dire recréé. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous recrée spirituellement pour que nous soyons une nouvelle créature, une nouvelle personne. Que tout ce qui a été mauvais en nous soit enlevé et remplacé par les choses justes. Ça ne veut pas dire qu'on change de personnalité ou quoi que ce soit, ou d'individualité. On est nous. On est unique au monde et personne ne pourra jamais nous changer, même pas Dieu. Mais par contre, tout ce qui est mauvais dans notre personnalité, tout ce qui était sale, qui était la rébellion, de l'orgueil, de l'égoïsme, tout ça, Dieu l'efface. Et il nous recrée, il nous donne des nouvelles pensées, nouveaux désirs, un nouvel amour pour les autres. Même des fois, on s'étonne soi-même, on dit « c'est pas possible que j'aime cette personne ». Il y a 10 ans encore, je ne l'aurais même pas regardé. Et là, je l'aime d'un amour qui est surhumain, surnaturel. Pour de bonnes œuvres. Dieu nous sauve pour agir. Mais on n'essaye pas de faire des œuvres pour être sauvé. C'est l'inverse qui est vrai. On est sauvé et là, on fait du bien. Tellement on aime le Seigneur, tellement on est reconnaissant. Dans les religions et dans les sectes en général, les gens essayent de travailler. Ils sont très sincères, hein. Ils font tout leur possible pour mériter leur ciel. Alors, ils font ça, en particulier les témoins de Jéhovah, que nous aimons, hein, dans le Seigneur, et qui sont trompés, hein, par leur chef. On leur dit, si tu fais tant de visites, ils ont des listes à remplir. J'ai vu même, ils ont une application mobile maintenant, où vous pouvez dire combien vous avez fait de visites, de porte à porte, de machin. Parce que plus vous en avez dans le mois, plus vous êtes un bon témoin de Jéhovah. Et donc, plus vous allez peut-être hérité, non pas de la vie du ciel, parce qu'ils n'y croient pas, mais du royaume terrestre. Et c'est des gens qui font des efforts terribles, ils vivent dans l'angoisse, est-ce que je vais être accepté? Je pense même aux religions en général, monothéistes ou autres, hein, où les gens font des efforts, mais ils ne sont jamais sûrs. Là, celui qui est en Christ, il est sûr. Il est sauvé, et après il fait du bien, parce qu'il est sauvé. Alors, on a vu au milieu de ce passage, le verset 4, ces deux mots. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Est-ce que vous avez un mais Dieu dans votre vie? Est-ce qu'un jour, Dieu est entré dans votre vie? Et vous a fait changer de train? Est-ce qu'un jour, vous avez réalisé à quel point Dieu vous aime? À quel point il veut vous pardonner, à quel point il a payé cher votre salut en donnant son Fils sur la croix. Est-ce que vous avez réalisé à quel point vous êtes pécheur, à quel point vos péchés vous éloignent, vous séparent de Dieu totalement, même les petits péchés? Est-ce que vous voulez changer de train? Est-ce que vous voulez que mais Dieu vous arrache au péché et vous sauve pour l'éternité et vous donne des nouvelles œuvres à faire? Mais Dieu. Si vous avez déjà mais Dieu, alors il faut vivre ce salut pleinement. Pas être un chrétien à moitié qui dit je suis sauvé, mais tout juste quoi. Si on a ce salut extraordinaire, si on est des miraculés, vous savez Sergio Prego là, il va voir la vie différemment maintenant. Parce que quand vous avez échappé à la mort comme ça, chaque instant de vie vous l'appréciez. J'ai la vie encore. Vous voyez les gens différemment. Vous vous embêtez plus à des petits trucs bêtes, des histoires. Vous voyez la vie. J'ai la vie. Eh bien, nous qui sommes sauvés, on devrait être 1000 fois plus comme ça. J'ai la vie éternelle. J'ai le salut, mais pourquoi je vais m'embêter à me fâcher avec tel ou tel? Pourquoi je ne vais pas avancer et jouir de cette vie et bénir et déborder cette vie sur les autres, hein? Faire déborder cette vie sur les autres par l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous donne de réaliser pleinement tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Le pardon, la vie éternelle, la résurrection, assis dans les lieux célestes. On va terminer par un cantique. Et pendant ce cantique, j'aimerais encore une fois lancer un appel. Non, c'est bon, Tina. Oui, merci. Doucement, tendrement.